Chapitre 9. Les yeux de la muse tragique se tenaient immobiles au fond de son rêve, sans regard, pétrifiés dans la divine cécité des statues. Où vas-tu? Au palais Capello. La Foscarina connaît-elle la trame de ton œuvre? Vaguement. Et quelle figure lui donneras-tu? Elle sera aveugle, déjà passée dans un autre monde, au-delà de la vie. Elle verra ce que les autres ne sauraient voir. Elle aura les pieds dans l'ombre, le front dans la vérité éternelle. Les conflits de l'heure tragique se répercuteront dans sa lutte intérieure, en s'y multipliant comme les tonnerres dans les profondes enceintes des roches solitaires. À l'égal de Tirésias, elle comprendra toutes les choses permises et défendues, célestes et terrestres, et elle saura combien il est dur de savoir quand le savoir est inutile. Ah, ce sont de merveilleuses paroles que je veux mettre dans sa bouche, et des silences d'où naîtront des beautés infinies. Sur la scène, dit Gloro, qu'elle parle ou qu'elle se taise, sa puissance est plus qu'inhumaine. Elle réveille dans nos cœurs le plus occulte mal et l'espoir le plus secret. Et par son enchantement, notre passé devient présent, et par la vertu de ses aspects, nous nous reconnaissons dans les douleurs souffertes à travers les temps par d'autres créatures, comme si l'âme révélée par elle était notre âme même. Ils s'arrêtèrent sur le pont Salvio, et Stelio se taisait sous un flot d'amour et de mélancolie qui soudain l'inonda. Il réentendait la voix triste. Avoir perdu ma gloire fugitive seulement pour qu'elle pût un jour servir la vôtre. Il réentendait sa propre voix. Mais je t'aime, je crois en toi. Je m'abandonne tout entier. Tu es ma compagne, ta main est forte. La force et la sûreté de cette alliance exaltaient son orgueil, mais cependant, tout au fond de son cœur, frémissait une aspiration et un pressentiment indéfini qui par instants se condensait et lui devenait lourd comme une angoisse. Je voudrais ne pas te quitter ce soir, Stelio, confessa le bon frère, enveloppé lui aussi dans un voile de mélancolie. Quand je suis à ton côté, ma respiration s'élargit et je me sens vivre d'une vie plus rapide. Stelio se taisait. Le vent paraissait faiblir. Les souilles interminants arrachaient les feuilles des acacias sur le campo de San Giacomo et les faisaient tournoyer. L'église brune et le campanile quadrangulaire en briques nues priaient silencieusement vers les étoiles. Connais-tu la colonne verte qui est à San Giacomo dal Rio? Reprit Daniel, et afin de retenir son ami quelques minutes encore, parce qu'il appréhendait l'adieu. Quelle matière sublime, on dirait la condensation fossile d'une immense forêt verdoyante. À suivre ces veines innombrables, l'œil voyage en rêve à travers le mystère sylvestre. Oh, quand je la regarde, il me semble que je visite la Scylla, l'Ercilia. Stelio connaissait la colonne. Un jour, Perdita s'était longuement appuyée au grand fût précieux pour contempler la magique frise d'or qui se courbe sur la toile du bassin et qui l'obscurcit. « Rêvez, rêvez toujours » soupira-t-il, dans un retour de cette amère impatience qui, sur le bateau, en partant du Lido, lui avait suggéré de railleuses paroles. « Vivre de reliques, mais pense donc à ce Dandolo qui a bâti du même coup cette colonne et un empire et qui voulut rester doge alors qu'il pouvait devenir empereur. Il vécut plus que toi, je suppose. » Toi qui erres dans les forêts lorsque tu contemples le marbre qu'il a plié. Allez, adieu, Daniel, et ne rabaisse pas son sort. Mais je voudrais le forcer. La pensée est ton arme. Oui, souvent mon ambition brûle ma pensée. Mais tu possèdes le pouvoir de créer, que te faut-il davantage? En d'autres termes, moi aussi, j'aurais pu peut-être conquérir un archipel. Que t'importe, une mélodie vaut une province? Pour une image nouvelle, ne céderais-tu pas une principauté? Vivre toute la vie, voilà ce que je voudrais, ne pas être seulement un cerveau. Mais un cerveau contient le monde. Ah non, tu ne peux comprendre. Tu es l'ascète, tu as dompté le désir. Ils se serrèrent la main fortement. Je passerai au palais Vendramine pour avoir des nouvelles, dit le bon frère. Ces paroles évoquèrent de nouveau le grand cœur malade, le poids du héros sur leurs bras, le transport terrible. Il a vaincu, lui, il peut mourir, dit Stelio. Il entra chez la Foscarina comme un esprit. Son excitation intellectuelle changeait l'aspect des choses. Le vestibule, éclairé par un fanal de galère, lui parut immense. Un felse posé sur les dalles près de la porte le troubla, comme la rencontre d'un cercueil. « Ah, Stelio !» s'écria l'actrice, qui, en le voyant paraître, se dressa d'un bond et s'élança vers lui impétueusement, avec tout le ressort de son désir comprimé par l'attente. « Enfin !» Brusquement, elle s'arrêta devant lui, sans le toucher. Le rapide élan qu'elle réfrénait vibra par tout son corps, depuis le talon jusqu'à la nuque, visible et se répercuta dans sa gorge en un râle bref. Elle était comme le vent qui tombe. Qui t'a pris à moi, pensa-t-elle, le cœur serré par le doute. Car tout d'un coup, elle avait senti dans les mets quelque chose qui le rendait pour elle intangible. Elle avait découvert dans les yeux de l'aimé quelque chose d'étranger et de lointain. Mais il l'avait vue très belle au moment où elle s'élançait de l'ombre, animée d'une violence un peu semblable à celle de la tempête qui agitait les lagunes. Le cri, le geste, le bond, l'arrêt subi, la vibration des muscles sous la tunique, le visage s'éteignant comme un feu qui se résout en cendres, l'intensité du regard pareil aux éclairs d'un combat, la respiration qui lui ouvrait les lèvres comme la chaleur ouvre les lèvres de la terre, tous les aspects de la personne véritable manifestaient une puissance de vie pathétique, comparable seulement à la poussée des énergies naturelles, à l'action des forces cosmiques. L'artiste reconnaissait en elle la créature dionysiaque, la vivante matière, apte à recevoir les rythmes de l'art, à être modeste et modelée selon les figures de la poésie. Et la voyant innombrable comme les vagues de la mer, il trouva inerte ce masque aveugle qu'il voulait lui mettre sur le visage. Il trouva que cette fiction tragique par où elle devait passer douloureusement était trop étroite, que l'ordre des sentiments d'où elle devait tirer ses expressions était trop limité, et que l'âme qu'elle avait et qu'elle aurait à révéler était une âme presque souterraine. Ah, tout ce qui tremble, pleure, espère, halète, délire dans l'immensité de la vie. Les images mentales furent prises d'une sorte de panique, d'une terreur dissolvante. Que pouvait être cette œuvre seule devant l'immensité de la vie? Eschyle avait composé plus de 100 tragédies, Sophocle davantage encore. Ils avaient construit un monde avec des fragments gigantesques soulevés par leurs bras titaniques. Leur labeur était vaste comme une cosmogonie. Les figures eschyliennes semblaient chaudes encore du feu éthéré, claires de la clarté sidérale, humides d'âme nue et fécondante. La statue d'Édipe semblait sculptée dans le bloc même du mythe solaire. Celle de Prométhée semblait tirée de l'outil primitif avec lequel le pasteur Arya produisait le feu sur le haut du plateau asiatique. l'esprit de la terre travaillait les créateurs. Cache-moi, cache-moi, et ne me demande rien, et laisse-moi me taire, supplia-t-il, incapable de dissimuler son trouble, impuissant à dominer le tumulte de ses pensées en désarroi. Le cœur ignorant de la femme palpita de crainte. « Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu as fait ?»« Je souffre. »« Mais de quoi ?»« D'anxiété, et d'anxiété de ce mal que tu me connais bien. » Elle le prit entre ses bras. Il sentit qu'elle avait tremblé d'un doute. « Mais tu es à moi encore ?» demanda-t-elle, la bouche sur l'épaule de Stelio d'une voix étouffée. « Oui, à toi, toujours !» Horrible était la frayeur qui agissait cette femme chaque fois qu'elle le voyait partir, chaque fois qu'elle le voyait reparaître. Au départ, n'allait-il pas vers la fiancée inconnue? Au retour, ne venait-il pas lui dire le dernier adieu? Elle l'étreignit entre ses bras avec l'amour de l'amante, de la sœur, de la mère, avec tout l'amour humain. « Dis, que puis-je faire? Que puis-je faire pour toi? Dis-le !» Un continuel besoin la tourmentait d'offrir, de servir, d'obéir à un commandement qui la pousserait vers le péril, vers la lutte pour un bien qu'elle lui rapporterait. « Que puis-je te donner ?» Il souriait faiblement, envahi par une lassitude. « Que veux-tu ? Ah, je le sais !» Il souriait. Il se laissait caresser par cette voix, par ses mains adorantes. « Tout, n'est-ce pas ? Tu veux tout ?» Il souriait avec mélancolie, comme un enfant malade, à qui on parlerait de beaux jouets. « Ah, si je pouvais ! Mais personne sur la terre ne pourra jamais te donner rien qui vaille, mon ami. Ta poésie et ta musique, c'est à elles seules que tu peux demander tout. Je me souviens de cette ode qui commence ainsi. « Je fus Pan !» Il inclina, sur le cœur fidèle, son front plein de beauté qui s'éclairait. Je fus Pan. Dans son esprit repassa la splendeur de ce moment lyrique, le délire de l'ode. As-tu vu la mer, ta mer aujourd'hui? As-tu vu la tempête? Il secoua la tête sans répondre. Elle était forte, la tempête. Tu m'as dit un jour que tu avais beaucoup de marins parmi tes aïeux. As-tu pensé à la maison bâtie sur la dune? As-tu la nostalgie des sables? Veux-tu retourner là-bas? Là-bas, tu as travaillé beaucoup d'un puissant travail. C'est une maison bénie. Lorsque tu travaillais, ta mère était avec toi. Tu l'entendais marcher doucement dans la chambre voisine. Quelquefois, n'est-ce pas, elle prêtait l'oreille. Il la serra sur son cœur, silencieusement. Cette voix pénétrait jusqu'au fond, semblait rafraîchir son âme enfiévrée. Et ta sœur, elle était aussi avec toi? Un jour, tu m'as dit son nom, je ne l'ai pas oublié, elle s'appelle Sophia. Je sais qu'elle te ressemble. Je voudrais l'entendre parler une fois ou la voir passer par un sentier. Un jour, tu m'as fait l'éloge de ses mains. Elles sont belles, n'est-ce pas? Tu m'as dit un jour que lorsqu'elle est affligée, ses mains lui font mal comme si elles étaient les racines de son âme. C'est cela, hein, que tu m'as dit, les racines de son âme. Il l'écoutait presque heureux. De quelle façon avait-elle découvert le secret de ce baume? À quelle source cachée puisait-elle la mélodie de ses souvenirs? Sophia ne saura jamais le bien qu'elle t'a fait à la pauvre voyageuse. Je suis d'elle, je sais d'elle peu de choses, mais je sais qu'elle te ressemble des visages et j'ai pu me la représenter. En ce moment même, je la vois. Dans les pays lointains, là-bas, là-bas, quand je me sentais perdu, elle m'est apparue souvent. Elle est venue me tenir compagnie. Elle m'apparaissait tout à coup, sans que je l'appelasse ou que je l'attendisse. Une fois, à Buren, où j'étais arrivé après un long et pénible voyage, pour revoir une pauvre amie qui allait mourir. Ce fut à l'aube, les montagnes avaient cette délicate et froide couleur de béryl que l'on voit seulement sur les glaciers. Une couleur de choses qui resteront à jamais lointaines et intangibles, oh combien, combien enviées. Pourquoi vint-elle alors? Nous attendîmes ensemble. Le soleil toucha l'extrémité des crêtes. Alors une frange irisée couronna soudain les glaces, dura quelques secondes, s'évanouit, et elle-même s'en alla avec l'arc-en-ciel, avec le miracle. Il l'écoutait, presque heureux. Toute la beauté et toute la vérité qu'il voulait exprimer n'était-elle pas contenue dans une roche ou dans une fleur de ces montagnes? La plus tragique lutte des passions humaines ne valait pas l'apparition de cette lumière sur les neiges éternelles. Et une autre fois, demanda-t-il doucement, car la pause se prolongeait et il craignait que la femme ne continuât pas. Elle sourit, puis s'attrista. Mais une autre fois, ce fut à Alexandrie d'Égypte, par une journée d'horreur confuse, comme après un naufrage. La ville avait l'aspect de la pourriture, elle semblait une ville en décomposition. Je me souviens, une rue pleine d'eau fangeuse, un cheval blanchâtre pareil à un squelette qui barbotait là-dedans avec la crinière et la queue-tête en ocre, les stèles d'un cimetière arabe, le miroitement soudain du lac Maréotis, oh le dégoût, la détresse. Oh non, cher Amnon, jamais plus tu ne seras seul et désespéré, dit-il, en son cœur gonflé de bonté fraternelle, à la femme nomade qui évoquait les tristesses de sa continuelle migration. À cette heure, son esprit qui s'était si violemment tendu vers l'avenir semblait se retirer avec un léger frisson vers le passé que le pouvoir de cette voix rendait présent. Il se sentait dans un état de recueillement doux et rêveur, comme celui qu'engendrent les contes d'hiver près de l'âtre. Comme naguère devant la maison close de Radiana, il se sentait pris par la fascination du temps. Et une autre fois, elle sourit, puis s'attrista. Une autre fois, à Vienne, dans un musée, une grande salle déserte, le fouettement de la pluie sur les vitres, d'innombrables reliquaires précieux dans les armoires de cristal, des signes de mort partout, des choses en exil qu'on ne priait plus, qu'on n'adorait plus. Ensemble, nous courbâmes le front contre le cristal d'une vitrine qui renfermait une collection de bras vénérés jadis avec leurs mains de métal fixées dans un geste immobile, des mains de martyrs parsemées d'agates, d'améthystes, de topazes, de grenats, de turquoises malades. Par certaines ouvertures, on apercevait l'intérieur, les parcelles d'ossements. Il y en avait une qui tenait un lys d'or, une autre une petite ville, une autre une colonne. L'une d'entre elles, plus fine, avec un anneau à chaque doigt, tenait un petit vase de baume, le reliquaire de Marie-Madeleine. Des choses en exil, devenues profanes, qu'on ne priait plus, qu'on n'adorait plus. Est-elle dévote, Sophia? A-t-elle l'habitude de la prière? Il ne répondait pas. Dans cet enchantement de la vie lointaine, il lui semblait qu'il ne devait point parler, qu'il ne devait donner aucun signe sensible de sa propre existence. Ta sœur entrait quelquefois dans ta chambre pendant que tu travaillais, et elle posait un brin d'herbe sur la page commencée. L'enchanteresse trembla, car une image qui était enveloppée de voile se dévoila tout à coup et lui suggéra d'autres paroles qui ne furent pas proférées. « Sais-tu que je commençais à l'aimer, cette créature qui chante, celle que tu ne peux avoir oubliée? Sais-tu que je commençais à l'aimer en pensant à ta sœur? Oui, pour verser dans une âme pure la tendresse que mon âme voulait offrir à ta sœur, de qui me séparait tant de choses cruelles. Cela le sais-tu ?» Elle vivait ces paroles, mais elles ne furent pas proférées. Cependant, la voix de la femme trembla de lueur, muette présence. Et toi, tu t'accordais alors quelques instants de repos. Tu allais à la fenêtre et tu y restais accoudé avec elle, regardant la mer. Un bouvier poussait deux jeunes bœufs attelés à la charrue et labourait le sable pour enseigner aux bêtes novices le droit sillon. Chaque jour avec elle, tu les regardais à la même heure, et quand les bœufs étaient instruits, ils ne venaient plus labourer le sable, ils s'en allaient sur la colline. Mais qui me les a dites, ces choses ? Il les lui avait dites lui-même un jour, presque dans les mêmes termes, mais ses souvenirs, maintenant, se représentaient à lui comme des visions inattendues. Et puis, c'étaient les troupeaux qui passaient le long du rivage. Ils venaient de la montagne, allaient vers les plaines de la Pouille, l'une pâture à une autre pâture. En marchant, les brebis laineuses imitaient le mouvement des vagues. Mais la mer était presque toujours tranquille alors que passaient les troupeaux avec leurs pasteurs. Tout était tranquille. Sur les grèves s'étendait un silence d'or. Les chiens couraient au long du troupeau, les pasteurs s'appuyaient sur leurs bâtons. Faible était le tintement des clochettes dans cette immensité. Tu suivais des yeux le voyage jusqu'au promontoire, et ensuite, avec ta sœur, tu allais regarder les traces laissées dans le sable humide qui étaient çà et là, criblées de trous et dorées comme les rayons de miel. Mais qui me les a dites, ces choses ? Il l'écoutait, presque heureux. Sa fièvre était tombée. Une paix lente descendait sur lui comme un léger sommeil. Puis venaient les bourrasques. La mer flanchissait la dune, envahissait le maquis, laissait les baves sur le genévrier, sur le tamaris, sur le myrtille et sur le romarin. Une quantité d'algues et d'épaves étaient rejetées sur la rive. Là-bas, quelques barques avaient fait naufrage. La mer apportait le bois pour les pauvres et le deuil. Dieu sait tout. La grève se peuplait de femmes, de vieillards, d'enfants. C'était à qui ramasserait le plus haut fagot. Alors ta sœur distribuait d'autres secours, le pain, le vin, les légumes, le linge. Les bénédictions couvraient la rueur des vagues. Tu regardais de la fenêtre et il te semblait que nulle de tes images ne valait l'odeur du pain chaud. Tu abandonnais la page inachevée et tu descendais pour aider Sophia. Tu parlais avec les femmes, avec les vieillards, avec les enfants. Mais qui me les a dites, ces choses ? Dès l'heure de la première nuit, Stelio, pour gagner la maison de la Foscarina, préférait entrer par la grille du jardin Gradenigo et passer au milieu des arbres et des arbustes redevenus sauvages. L'actrice avait obtenu de faire communiquer son jardin avec celui du palais abandonné par une brèche ouverte dans le mur de séparation. Mais depuis quelque temps, Lady Myrta était venue habiter les vastes chambres silencieuses qui avaient eu pour dernier hôte le fils de l'impératrice Joséphine, le vice-roi d'Italie. Ces chambres étaient ornées de vieux instruments sans cordes et le jardin s'était peuplé de beaux lévriers sans proie. Rien ne semblait à Stelio plus doux et plus triste que ce chemin vers la femme qu'il attendait en comptant les heures, si lente et pourtant si fugace. Dans l'après-midi, le quai de San Simeon Piccolo se dorait comme une rive de fen arbâtre. Les reflets du soleil jouaient avec les fers des proues alignées près du débarcadère, frissonnaient sur les marches de l'église et sur les colonnes du péristyle, animaient les pierres disjointes et usées. Quelques fels pourris gisaient à l'ombre, sur les dalles avec leurs serges que les pluies avaient endommagées et déteintes, pareils à des catafalques délabrés par l'usage funèbre, à des poils vieillis sur le chemin du cimetière. D'un palais déchu, converti en fabrique de cordage, une suffocante odeur de chanvre sortait par les barreaux de fer qu'obstruait un duvet grisâtre semblable à un enchevêtrement de toiles d'araignée. Là, au fond du Gampiello del Lagomare, herbeux comme l'enclos consacré d'une paroi champêtre, s'ouvrait la grille du jardin entre deux pilastres que couronnaient des statues mutilées où les rameaux du lierre, desséchés sur leurs membres, offraient l'image de veines en relief. Rien ne paraissait aux visiteurs plus doux et plus triste. Autour du Cambiello, les cheminées des humbles maisons fumaient en paix vers la coupole verte. De temps à autre, un vol de pigeons, quittant les sculptures des Scalzi, traversait le canal. On entendait le sifflet d'un train passant sur le pont de la lagune, la cantilène d'un cordier, le bourdonnement de l'orgue, la psalmodie des prêtres. L'été des morts trompait la mélancolie de l'amour. Elion, Sirius, Altair, Donovan, Alintour, Nerissa, Pulcibella. Assise sur un banc contre le mur tapissé de rosiers, Lady Myrta appelait ses chiens. La Foscarina était près d'elle, debout, dans un costume fauve qui rappelait cette fière étoffe appelée rouanne en usage autrefois à Venise. Le soleil enveloppait les femmes et les roses dans une même tiédeur blonde. « Mais vous êtes vêtue aujourd'hui comme Donovan, » dit Lady Myrta à l'actrice avec un sourire. « Savez-vous que Stelio préfère Donovan à toutes les autres ?» La Foscarina se colora de rougeur. Elle chercha des yeux le lévrier fauve. « C'est le plus beau et le plus fort, » dit-elle. « Mais je crois qu'il le désire, » ajouta la vieille dame avec une indulgente douceur. « Mais que ne désire-t-il pas ?» Lady Myrta remarqua la mélancolie qui voilait la voix de l'amante. Elle garda le silence quelques instants. Les chiens étaient là, graves et tristes, pleins de somnolence et de rêves, loin des plaines, des steppes et des déserts, accroupis sur le pré de trèfle où serpentaient les courges avec leurs fruits creux d'un vert jaune. Les arbres étaient immobiles, comme s'ils eussent été fondus dans le même bronze qui recouvrait les trois coupoles inégales de San Simeone. Le jardin avait le même aspect sauvage que le grand édifice de pierre terni par la fumée tenace du temps, strié par la rouille des ferrures qui avaient coulé sous les pluies d'innombrables automnes. Et tout entière, la chevelure d'un grand pin résonnait de ce ramage qui certainement à cette minute devait arriver aussi du jardin clos jusqu'aux oreilles de Radiana. « Il vous fait souffrir, » aurait voulu demander la vieille femme à l'amante. Car ce silence lui pesait et elle se sentait réchauffée par l'ardeur de cette âme douloureuse comme par ce tardif été. Mais elle n'osa pas. Elle poussa un soupir. Son cœur, toujours jeune, palpitait au spectacle de la passion désespérée et de la beauté menacée. « Ah, mais vous êtes belle encore, et votre bouche attire encore les baisers, et l'homme qui vous aime peut s'enivrer encore de votre pâleur et de vos regards, » pensait-elle en considérant l'actrice absorbée vers laquelle s'allongeaient les roses de novembre. Mais moi, je suis un spectre. Elle baissa les yeux, vit sur ses genoux ses propres mains déformées, et elle s'étonna que ses mains fussent les siennes, tant elles lui semblèrent tordues et mortes, lamentables monstres qui ne pouvaient toucher sans provoquer le dégoût, qui ne pouvaient caresser désormais que les chiens somnolents. Elle sentit les rides sur sa face, les fausses dents contre ses gencives, les cheveux postiches sur sa tête, toute la ruine de son pauvre corps, qui jadis avait obéi aux grâces de son esprit délicat. Et elle s'étonna de sa propre persistance à lutter contre les ravages des ans, à se tromper elle-même, à recomposer chaque matin la ridicule illusion avec les essences, avec les huiles, avec les onguents, avec les fards, avec les teintures. Mais dans le printemps continuel de son rêve, sa jeunesse ne demeurait-elle pas toujours présente? Hier encore, n'avait-elle pas caressé un aimable visage avec ses doigts parfaits, chassé le renard et le cerf dans les hauts comtés, dansé avec son fiancé dans un parc sur un air de John Dowland? Il n'y a pas de miroir chez la comtesse de Gerniev. Il y en a trop chez Lady Myrta, pensait la Foscarina. La première a caché aux autres et à elle-même sa décadence. La seconde s'est vue chaque matin vieillir, à compter ses rides une à une, à ramasser dans son peigne ses cheveux morts, à sentir ses dents vaciller dans ses gencives pâles, et elle a voulu réparer par des artifices le dommage irréparable. Pauvre âme tendre qui voudrait vivre encore charmante et souriante. Mais il faut disparaître, mourir, s'abîmer sous terre. Elle aperçut le petit bouquet de violettes que Lady Myrta portait épinglé au bas de sa jupe. En toute saison, il y avait là, dans un pli, une fleur fraîche, à peine visible, comme le signe de la quotidienne illusion printanière, de l'enchantement toujours nouveau qu'elle se donnait à elle-même par le souvenir, par la musique, par la poésie, par tous les arts du rêve, contre la vieillesse, contre l'infirmité, contre la solitude. Il faut vivre une suprême heure de flamme et puis disparaître à jamais sous terre, avant que tout charme soit évanoui, avant que toute grâce soit morte. Elle sentit la beauté de ses propres yeux, la voracité de ses lèvres, la force rude de ses cheveux pliés par la tempête, toute la puissance des rythmes qui sommeillaient dans ses muscles et dans ses os. Elle réentendit les paroles de son ami, celles qu'il avait louées. Elle le revit dans la fureur du désir, dans la douceur de l'alanguissement, dans l'oubli du plus profond. Quelques jours encore, oh, quelques jours encore, je lui plairai, je lui brûlerai le sang, quelques jours encore. Les pieds dans l'herbe, le front au soleil, parmi l'odeur des roses qui se fanaient, dans cette robe fauve qui la faisait pareille au magnifique animal de proie et de course, elle se consumait de passion et d'attente avec une soudaine effervescence de vie, comme si, dans le présent, eût reflué cet avenir auquel elle renonçait par une volonté de mort. Viens, viens, et en elle-même, elle appelait l'aimé, avec une sorte d'ivresse, sûre qu'il allait venir puisqu'elle le pressentait et que jamais son pressentiment ne l'avait trompée. Quelques jours encore. Chaque minute passée lui paraissait une spoliation inique, immobile, et elle désirait et souffrait vertigineusement. Au battement de son pouls vibrait tout le jardin sauvage, pénétré de chaleur jusque dans les racines. Elle crut qu'elle allait perdre connaissance et se laisser choir. « Ah, voilà Stelio !» s'écria Lady Myrta, en apercevant le jeune homme qui apparaissait entre les lauriers. L'amante se retourna, rapide, colorée de rougeur. Les lévriers se levèrent, dressèrent les oreilles. La rencontre des deux regards eut un jaillissement d'éclairs. Encore une fois, comme toujours en présence de la créature merveilleuse, l'aimé avait la divine sensation d'être enveloppé tout à coup dans un éther enflammé, dans un vibrant effluve qui semblait l'isoler de l'atmosphère commune et en quelque sorte le ravir. Ce prodige d'amour, il l'avait un jour associé à une image physique, en se rappelant que, certains soirs lointains de son enfance, comme il traversait un terrain solitaire, il s'était vu enveloppé soudain par des feux follets et avait jeté un cri. « Vous étiez attendu par tout ce qui vit dans cette enceinte, » lui dit Lady Myrta, avec un sourire qui dissimulait le trouble de ce pauvre cœur juvénile, prisonné dans ce vieux corps infirme, au spectacle de l'amour et du désir. « En venant, vous avez obéi à un appel. »« C'est vrai, » dit le jeune homme, qui déjà tenait par le collier Donovan, accouru près de lui en souvenir des habituelles caresses. « Le fait est que j'arrive de fort loin, devinez d'où ?»« D'un paysage de Giorgione ?»« Non, du cloître de Santa Apollonia. Connaissez-vous le cloître de Santa Apollonia ?»« C'est votre invention d'aujourd'hui. »« Mon invention nullement. » C'est un cloître en pierre, un cloître véritable, avec ses colonnettes et son puits. Cela est possible, mais tous les lieux que vous regardez deviennent vos inventions, Stelio. Ah, Lady Myrta, ce cloître est un joyau que je voudrais vous donner et que je voudrais transporter ici, dans votre jardin. Imaginez un petit cloître secret, ouvert sur une ordonnance de colonnes accouplées et exténuées, comme les sœurs qui se promènent au soleil pendant le jeûne, très délicates, ni blanches, ni grises, ni noires, mais de la plus mystérieuse couleur qu'ait jamais donnée à la pierre ce grand maître coloriste, le temps. Et au milieu, un puits, et sur la margelle, usé par la corde, un seau sans fond. Les nonnes ont disparu, mais je crois que les ombres des Danaïdes fréquentent ce lieu. » Il s'interrompit tout à coup en se voyant environné par la troupe des lévriers. Et il se mit à imiter les voix gutturales que jette dans les chenilles l'homme de la meute. Les chiens devinrent inquiets. Leurs yeux mélancoliques se ravivèrent. Deux d'entre eux, qui étaient restés à l'écart, accoururent avec des bonds allongés par-dessus les arbustes et s'arrêtèrent devant lui, secs et luisants comme des paquets de nerfs enveloppés de soie. Alidour, Crissa, Derissa, Carissa, Altair, Elion, Ardicanut, Véronèse, Hierro. Il les connaissait tous par leur nom. Et eux, quand il les appelait, semblaient le reconnaître pour leur maître. Il y avait là le lévrier d'Écosse, natif des hautes montagnes, au poil épais et rude, plus dur et plus fourré vers les joues et le museau gris comme le fer neuf. Et le lévrier d'Irlande, destructeur de loups, rougeâtre, robuste, dont l'œil brun tournait en montrant le blanc. Et celui de Tartarie, moucheté de jaune et de noir, originaire des immenses steppes asiatiques, où la nuit il partait la tente contre les hyènes et les réopards. Et celui de Perse, blond et petit, aux oreilles couvertes de longs poils soyeux, à la queue touffue, pâle sur les flancs, et le long des jambes plus gracieux que les antilopes qu'il avait tuées. Et le gaïgo espagnol, immigré avec les maures, ce magnifique animal que le nain pompeux vient en laisse dans le tableau de Velasquez, instruit à court et à forcer dans les plaines nues de la Manche, ou dans les landes de Murcia et d'Alicante, couvertes d'alfars. Et le slougui arabe, le déprédateur illustre du désert, à la langue et au palais noirâtre, avec tous les tendons visibles, avec toute l'ossature se révélant à travers la peau fine, noble cœur fait d'orgueil, de courage et d'élégance, habitué à dormir sur de beaux tapis et à boire le lait pur dans un vase pur. Et, rassemblés comme une meute, ils frémissaient autour de celui qui savait réveiller dans leur sang engourdi les instincts primitifs de la poursuite et du carnage. Qui de vous était le meilleur ami de Gog ? Demanda-t-il en regardant les uns après les autres, ses beaux yeux inquiets qui se fixaient sur lui. Toi, Hiéro ? Toi, Altaïr ? Son accent singulier animait les bêtes sensitives qui l'écoutaient avec un grondement sourd et interrompu. Chacun de leurs mouvements suscitait une onde luisante dans leur pelage d'hiver, et les longues queues, recourbées à l'extrémité comme des crochets, battaient légèrement les cuisses musculeuses, les jarrets bas. Eh bien, je vous dirai ce que j'ai tu jusqu'à ce jour. Gog, vous entendez, celui qui d'un seul coup de ses mâchoires cassait les reins du lièvre, Gog est estropié. Oh, vraiment ? S'écria Lady Myrta, très affligée. Est-il possible, Stelio, et Magog ? Oh, Magog est sain et sauf. C'était le couple de lévriers que Lady Myrta avait donné à son jeune ami et que celui-ci avait emmené dans sa maison au bord de la mer. Mais comment cela est-il arrivé ? Ah, oh, le pauvre Gog ! Il avait déjà tué 37 lièvres. Il possédait toutes les vertus de la grande race, la rapidité, la résistance, une promptitude inouïe dans les voltes et le désir constant de tuer la proie, et la manière classique de la saisir par derrière en courant droit sur elle et faisant le crochet avec elle presque toujours au même instant. Avez-vous jamais assisté à une course de lévrier, Foscarina ? Elle était si attentive que son nom, prononcé à l'improviste, la fit tressaillir. Non, jamais. Elle était suspendue aux lèvres de Stelio, fascinée par leur instinctive expression cruelle, tandis qu'il expliquait l'œuvre de sang. Jamais, ah, alors vous ne connaissez pas l'un des plus rares spectacles de hardiesse, de véhémence et de grâce qu'il y ait au monde. Regardez. Il attira vers lui Donovan, se pencha, le palpa de ses mains expertes. Dans la nature, il n'existe pas de machine plus précise et plus puissamment adaptée à sa destination. Le museau est aigu pour fendre l'air, long pour que les mâchoires puissent briser la proie du premier coup. Le crâne est large entre les deux oreilles pour contenir le plus grand courage et la plus grande adresse. Les joues sont sèches et musculeuses, les lèvres si courtes qu'elles recouvrent à peine les dents. Avec une facilité sûre, il ouvrit la gueule du chien, qui n'essaya pas de résister. La denture apparut éblouissante, et le palais marqué de larges ondulations noires, et la langue mince et rose. Regardez ces dents ! Regardez comme les canines sont longues et un peu crochues à la pointe pour mieux tenir prise. Nulle autre espèce de chien n'a la gueule construite pour mordre d'une façon aussi parfaite. Ses mains s'attardaient à cet examen, et il semblait que son admiration pour ce superbe exemplaire n'eût pas de limite. Il avait posé un genou dans le trèfle et recevait au visage l'haleine de l'animal qui se laissait palper avec une docilité insolite, comme s'il eût compris l'éloge du bon connaisseur et en eût joui. Les oreilles sont petites et attachées très haut, droites quand l'animal est excité, mais tombantes et comme adhérentes au crâne quand il est au repos. Elle n'empêche pas d'ôter et de remettre le collier sans défaire la boucle, voyez. Il ôta et remit le collier qui cerclait exactement le cou. Un coup de cygne long et flexible qui lui permet de happer le gibier à toute vitesse sans perdre l'équilibre. Oh, une fois j'ai vu Gog saisir en l'air un lièvre qui avait bondi par-dessus un fossé. Mais observez maintenant les parties les plus importantes. La largeur et la profondeur de la poitrine pour la longue haleine, l'obliquité des épaules proportionnée à la longueur des jambes, la formidable masse musculaire des cuisses, les jarrets courts, l'épine dorsale creuse entre deux faisceaux de muscles solides. Regardez, les vertèbres des lions sont visibles en relief, celles de Donovan sont cachées dans un sillon. Les pattes ressemblaient à celles des chats, avec les ongles rentrés par trop cependant, mais pas trop, non, non, des pattes élastiques sûres. Et quelle élégance dans les côtes, disposées de la façon d'une belle carène, et dans cette ligne qui s'efface vers l'abdomen complètement effacée. Tout concourt à une seule fin. La queue forte au point d'attache et fine à l'extrémité, regardez, presque pareille à celle d'un rat, sert de gouvernail à l'animal et lui est nécessaire pour tourner quand le lièvre fait un crochet. Vérifions, Donovan, si en cela aussi tu es parfait. Il prit la pointe de la queue, la passa sous la cuisse, la tira vers l'os de la hanche, parvint à lui faire toucher exactement l'apophyse. Oui, parfait. Un jour, j'ai vu un arabe de la tribu d'Arbaa prendre cette mesure sur son slougi. Ali Nour, tremblais-tu quand tu apercevais le troupeau des gazelles? Figurez-vous, Foscarina, le slougi tremble quand il découvre la proie. Il tremble comme un roseau et tourne vers son seigneur des yeux doux et suppliants pour qu'on le détache. Je ne sais pourquoi cela me plaît et m'émeut si fort. Terrible est en lui le désir de tuer. Tout son corps est prêt à se détendre comme un arc et il tremble. Non de peur, non d'incertitude, il tremble de ce désir. Ah, Foscarina, si vous voyez en ce moment-là un slougi, vous ne manqueriez pas de lui dérober sa façon de trembler. Vous sauriez la rendre humaine par votre art tragique. Et vous donneriez encore aux hommes un nouveau frisson. Sus, Ali Nour, torrent de rapidité dans le désert. Te souvient-il d'avoir ainsi tremblé? Maintenant, tu ne trembles que de froid. Allègre et mobile, Stelio lâcha Donovan, prit entre ses mains la tête serpentine du tueur de gazelles, et le regarda au fond de ses pupilles, où flottait la nostalgie des pays torrides et silencieux, des tentes déployées après l'étape au mirage trompeur, des feux allumés pour le repas du soir sous les larges étoiles qui semblent vivre dans la palpitation du vent à la cime des palmiers. Des yeux de rêve et de mélancolie, de courage et de fidélité. Avez-vous jamais songé, Lady Myrta, que le lévrier aux beaux yeux est précisément le mortel ennemi des animaux aux beaux yeux, comme la gazelle et le lièvre? La Foscarina était entrée dans ce corporel enchantement d'amour par où il semble que les confins de la personne se dilatent et se fondent dans l'air, si bien que toutes les paroles et tous les actes de l'aimer suscitent chez l'amante un tremblement plus doux que n'importe quelle caresse. Le jeune homme avait pris entre ses mains la tête d'Ali Nour, mais c'était sur ses propres tempes qu'elle sentait le toucher de ses mains. Le jeune homme examinait les pupilles d'Ali Nour, mais c'était au fond de son âme propre qu'elle sentait ce regard. Et il lui parut que la louange donnée aux yeux du lévrier allait à ses propres yeux. Elle était là, debout sur l'herbe, comme ces fiers animaux qu'il aimait, vêtue comme celui qu'il préférait entre tous, comme eux hantés par le confus souvenir d'une lointaine origine, et un peu étourdi par l'ardeur des rayons que reflétait le mur tapissé de rosiers comme dans l'étourdissement et le feu d'une fièvre légère. Elle entendait Stelio parler de ces choses vivantes, de ces membres aptes à la course et à la prise, de la vigueur, de l'adresse, de la puissance naturelle, de la vertu du sang, et elle le voyait près de terre, dans l'odeur de l'herbe, dans la chaleur du soleil, flexible et fort, palpant la peau étricieuse, mesurant l'énergie des muscles visibles, jouissant au contact de ses corps généreux, participant presque à cette bestialité délicate et cruelle qu'ils s'étaient souvent complu à représenter dans leurs inventions de son art. Et elle-même, les pieds dans la terre chaude, sous les souffles du ciel, semblable par la couleur de son vêtement aux déprédateurs fauves, elle sentait monter des racines de sa propre substance un étrange sentiment de bestialité primitive et comme l'illusion d'une lente métamorphose où elle perdrait une partie de sa conscience humaine et redeviendrait une fille de la nature, une force ingénue et brève, une vie sauvage. Ne touchait-il pas ainsi en elle le plus obscur mystère de l'être? Ne lui faisait-il pas sentir ainsi la profondeur animale d'où avaient jailli ces révélations de son génie tragique, inattendu et qui avait secoué, enivré la multitude comme les spectacles du ciel et de la mer, comme les aurores, comme les tempêtes? Lorsqu'il lui avait parlé du Slougi tremblant, n'avait-il pas deviné de quelles analogies naturelles l'actrice tirait les puissances d'expression qui émerveillaient les poètes et les peuples? C'était parce qu'elle avait retrouvé le sens dionysiaque de la nature naturante, l'antique ferveur des énergies instinctives et créatrices, l'enthousiasme du dieu multiforme émergé de la fermentation de tous les sucs. C'était pour cela qu'elle apparaissait au théâtre si nouvelle et si grande. Quelquefois, elle avait cru sentir en elle-même l'imminence de ce prodige qui faisait se gonfler d'un lait divin le sein des ménades à l'approche des petites panthères avides de nourriture. Elle était là, debout sur l'herbe, agile et fauve comme le lévrier favori, pleine du souvenir confus d'une lointaine origine, vivante et désireuse de vivre sans mesure pendant l'heure brève qui lui était concédée. Elles étaient évanouies, les molles vapeurs des larmes, tombées, les aspirations douloureuses vers la bonté et le renoncement, disparues, toutes les grises mélancolies du jardin abandonné. La présence de l'animateur élargissait l'espace, changeait le temps, accélérait le battement du cœur, multipliait la faculté de jouir, créait une fois encore le fantôme d'une fête magnifique. Elle était encore une fois telle qu'il voulait la façonner, oublieuse des misères et des craintes, guérie de tout mal, triste, créature de chair qui vibrait dans le jour, dans la chaleur, dans le parfum, dans les jeux des apparences, prête à traverser avec lui les plaisirs, les plaines évoquées, les dunes et les déserts, dans la furie des poursuites, à s'enivrer de cette ivresse, à se réjouir au spectacle du courage, de l'astuce, des proies sanglantes. De seconde en seconde, par ses paroles, par ses gestes, il la faisait à sa ressemblance. À chaque fois que je voyais le lièvre se rompre sous les dents du chien, un éclair de regret passait dans ma joie pour ses grands yeux humides qui s'éteignaient. Plus grand que les tiens, Alinour, et que les tiens aussi, Donovan, et splendides comme les étangs durant les soirs d'été, avec leurs forêts de joncs qui s'y baignent, avec tout le ciel qui s'y mire et qui s'y transfigure. Avez-vous jamais vu un lièvre le matin sortir des sillons fraîchement ouverts par la charrue, courir quelques instants sur le givre argenté, puis s'arrêter dans le silence, s'asseoir sur ses pattes de derrière, dresser les oreilles, regarder l'horizon? Il semble que son regard pacifie l'univers. Le lièvre immobile qui, dans une trêve de sa perpétuelle inquiétude, contemple la campagne fumante. Oh, il serait impossible d'imaginer un plus sûr indice de paix parfaite aux alentours. À cet instant-là, c'est un animal sacré qu'il faut adorer. Lady Myrta eut un éclat de son rire vigénile qui découvrit sa denture chryséléphantine et fit remuer sous son manteau ses peaux de tortue. « Ce doux Stelio, s'écria-t-elle, riant toujours, adorez d'abord, puis mettre en pièces. Telle est votre coutume, n'est-ce pas ?» La Foscarina regarda la rieuse avec étonnement, car elle l'avait oubliée. Et cette femme, assise là, sur ce banc de pierre jauni par les lichens, avec ses mains tordues, avec cette scintillation d'or et d'ivoire entre les lèvres minces, avec ses petits yeux glauques sous les paupières flasques, avec cette voix enrouée et ce rire clair, la fit penser à une de ces vieilles fées palmipèdes qui vont par la forêt, suivies d'un crapaud obéissant. Dans l'oubli où elle s'était perdue, les étranges paroles ne la pénétrèrent pas. Néanmoins, elles lui furent désagréables comme un grincement. « Ce n'est pas ma faute, répondit Stelio, si les lévriers sont faits pour tuer les lièvres, et non pour somnoler entre les murs d'un jardin, sur l'eau d'un canal mort. » Et de nouveau, il se mit à imiter les voix gutturales que jette dans les chenilles l'homme de la meute. « Grissa, Derissa, Al-Altaïr, Sirius, Pujbal, Elion !» Les chiens excités s'agitaient, leurs yeux se rallumèrent. Leurs muscles secs tressaillirent sous le pelage fauve, noir, blond, plombé, tacheté, moucheté. Les longues cuisses se courbèrent sur les jarrets comme des arcs prêts à se détendre pour décocher dans l'espace l'ossature plus aride et plus agile qu'un faisceau de flèches. « Là, là, Donovan, là !» Du doigt, il montrait sur l'herbe au fond du jardin une forme d'un gris rougeâtre qui offrait l'apparence d'un lièvre aux oreilles couchées, accroupi. Sa voix impérieuse trompait les lévriers hésitants. Et il était beau de voir au soleil ses corps maigres et robustes dans leur soie vivante reluire, frémir et onduler à l'incitation de la voix humaine comme dans les pavoisements les plus légers drapeaux sous le souffle de la brise. « Là, Donovan !» Et le grand chien fauve le regarda dans les prunelles, fit un bond formidable, s'élança vers la proie illusoire avec toute la véhémence de son instinct réveillé. En une seconde, il l'atteignit. Il s'arrêta, déçu. Il demeura en arrêt, plié sur les pattes antérieures, le cou allongé. Puis de nouveau, il bondit, se mêla au jeu de la bande qu'il avait suivie en grand désordre, se prit de querelle avec Altaïr, puis, le museau dressé, il poursuivit en aboyant un vol de moineaux qui, de la cime du pin, s'élevait dans l'azur avec un grand froufrou d'ailes. « Une courge, une courge !» criait l'imposteur parmi les éclats de rire. « Pas même un lapin, pauvre Donovan. Un coup de dent sur une citrouille. Ah, pauvre Donovan, quelle humiliation !»« Pas de garde, Lady Myrthe, que de honte, il n'aille se le noyer dans le canal !» Prise par la contagion de l'hilarité, la Foscarina riait avec lui. Sa robe ourouane et les robes des lévriers brillaient au soleil oblique sur le fer du trèfle. La blancheur de ses dents et son rire sonore lui remplissaient la bouche d'une jeunesse nouvelle. L'ennui du jardin séculaire se déchirait comme l'étoile d'araignée quand une main violente ouvre une fenêtre depuis longtemps close. « Voulez-vous Donovan ?» dit Lady Myrtha, avec une grâce malicieuse qui était celle de son âme et qui se perdit dans ses rides comme un ruisseau dans un ravin. « Je connais votre art !» Stelio cessa de rire et il rougit comme un enfant. Un flot de tendresse gonfla le sein de la Foscarina pour cette rougeur puérile. tout entière elle étincela d'amour. Et un désir fou de prendre l'aimé entre ses bras fit trembler ses poignets, ses lèvres. « Mais le voulez-vous ? » demanda de nouveau Lady Myrta, heureuse de pouvoir donner et reconnaissante à celui qui savait recevoir le don avec un plaisir si frais, si vivace. « Donovan est à vous !» Avant de dire merci, Stelio chercha des yeux le lévrier avec une sorte d'angoisse. Il le revit, splendide, puissant, très beau, avec l'empreinte du style sur chacun de ses membres, comme si Pisanello l'avait dessiné pour le revers d'une médaille. « Mais Gog, qu'est-il advenu de Gog? Vous nous en avez rien dit !» ajouta la donatrice. « Oh, comme on oublie facilement les Invalides !» Stelio regardait la Foscarina, qui s'était retournée, s'en allait vers le groupe des lévriers, cheminant sur l'herbe, avec une svelte ondulation un peu semblable à ce pas que les vieux Vénitiens appelaient justement à la lévrière. La robe rouanne dorée par le soleil couchant paraissait flamboyer sur sa personne flexible. Et il était évident qu'elle se dirigeait ainsi vers l'animal de sa couleur, à qui l'actrice, par un profond instinct mimique, s'assimilait étrangement, tout près d'une métamorphose. « Ce fut après une course, expliqua Stelio. J'avais l'habitude de lancer chaque jour un lièvre sur les dunes le long du rivage. Souvent, les campagnards m'en apportaient de vivants, et ceux de ma terre, bruns, robustes, prompts à la défense, très rusés, capables de griller et de mordre. Ah, Lady Myrta, il n'est aucun terrain de course plus beau que ma plage libre. » Vous connaissez les hauts plateaux immenses du Lancashire, le sol desséché du Yorkshire, les dures plaines de Carr, le marais de la Basse-Écosse, les sables de l'Angleterre méridionale. Mais un galop sur mes dunes, plus blondes et plus lumineuses que les nuages d'automne, par-dessus les buissons de genévriers et de tamaris, par-dessus les étroites embouchures limpides des petites rivières, par-dessus les petits étangs salés le long de la mer plus verte qu'une prairie, en vue des montagnes de neige et d'azur, mais cela obscurcirait vos plus heureux souvenirs, Lady Myrta. Italie, soupira la vieille fée bénigne, Italie, fleur du monde. Donc c'était sur cette plage que je lançais le lièvre. J'avais instruit un homme à découpler les chiens au moment voulu, et je suivais la course à cheval. Certes, Magog est un excellent coureur, mais je n'avais jamais vu un tueur plus ardent et plus prompt que Gog. « Il est des chiens de Newmarket, » dit la donatrice avec orgueil. Un jour, je revenais à la maison par le bord de la mer. La course avait été brève. Gog avait rejoint le lièvre après 2 ou 3 miles. Je revenais au petit galop, rasant l'eau claire. Gog galopait de front avec mon cheval Cambise, et de temps à autre, il s'élançait vers la pièce de gibier pendue à l'arçon de ma selle en aboyant. Tout à coup, devant une charogne qui se trouvait sur le sable, mon cheval fit un bond à droite et dans l'écart, frappa de son fer le chien qui se mit à hurler en relevant sa patte gauche de devant, cassée, semblait-il, à la cheville. J'arrêtai à grand-peine la bête effarouchée et je revins sur mes pas. Mais dès que Cambise aperçut de nouveau la charogne, il fit volte-face et me força la main. Ce fut alors une fuite vertigineuse à travers les dunes. Quelques instants plus tard, avec une émotion que je ne saurais dire, j'entendis à la queue de mon cheval le halètement de Gog. Il me suivait, comprenez-vous? Poussé par la générosité du sang, oublié de la douleur, il m'avait rejoint avec sa patte cassée, il m'accompagnait, il passait devant moi. Mes yeux rencontrèrent ses beaux yeux doux, et tandis que je m'efforçais de maîtriser mon cheval affolé, mon cœur se fendait chaque fois que la pauvre patte blessée effleurait le sable. Je l'adorais, mais je l'adorais alors. Me croyez-vous capable de pleurer ?»« Oui, répondit les Demirta, même de pleurer. » »« Eh bien, pendant que ma sœur Sophia lavait la blessure avec ses belles mains sur lesquelles tombaient des larmes, je crois que moi aussi... » La Foscarina était près d'eux avec Donovan, qu'elle tenait par le collier, redevenue pâle et presque effacée, comme si déjà commençait à la pénétrer le froid du soir. La coupole de bronze allongeait son ombre sur les herbes, sur les lauriers, sur les charmilles. Une humidité violette où nageaient les derniers atomes de l'or solaire se répandait entre les troncs et les branches que faisaient trembler les souffles intermittents. Et les oreilles, maintenant, réentendaient le ramage qui emplissait la chevelure du pin semée de cônes vides. « Eh bien oui, nous ne vous appartenons, » semblait dire la femme accompagnée du lévrier, qui, saisie par les premiers frissons du soir, se serrait contre ses genoux. « Oui, oh, nous vous appartenons à jamais. Nous sommes ici pour servir. » Rien au monde ne me trouble et ne m'enflamme comme ces soudaines apparitions de la vertu du sang, continuait le jeune homme, exalté par le souvenir de cette heure émue. On entendit le long sifflet d'un train qui passait sur le pont de la lagune. Un souffle effeuilla entièrement une large rose blanche, dont il ne resta que la baie à l'extrémité d'une ronce. Les chiens s'approchèrent, se groupèrent, se serrèrent les uns contre les autres, frileux. Sous la peau fine, leurs os décharnés frissonnaient, et dans leurs têtes allongées et plates comme celles des reptiles, reluisaient leurs yeux mélancoliques. Ne vous ai-je pas raconté, Stelio, de quelle manière sut mourir une femme du meilleur sang de France, justement dans une grande battue à laquelle j'assistais ? Lui demanda la Demirta, en qui cette image tragique et lamentable avait été réveillée par l'expression qu'elle venait d'apercevoir sur le visage pâli de la Foscarina. « Non, non, jamais. Et qui était cette femme ?»« Jeanne Delbeuf. Soit imprudent, soit inexpérience ou d'elle ou du cavalier qui était à son flanc, elle fut blessée. Bon, jamais on ne sut par qui. » En même temps que le lièvre qui passait entre les jambes de son cheval. On la vit tomber lourdement par terre. Oh, nous accourûmes tous, et nous la trouvâmes là, sur l'herbe, pelotonnée dans le sang, à côté du lièvre qui se tordait. Non, le silence et dans la consternation, comme nous restions tous pétrifiés, et que nul n'osait encore ni parler ni faire un mouvement. La pauvre créature leva la main d'une façon presque imperceptible, indiqua l'animal blessé qui souffrait et, oh, je n'oublierai jamais son accent, elle dit « Oh, tuez-le, mes amis, ça fait si mal !» Et elle mourut aussitôt.